Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Belinda Bosuma à la présentation.
L'Internet et les chaînes câblées gagnent du terrain en RDC, ce au détriment de la radio et de la presse écrite. C'est ce qui ressort d'une étude sur l'audience des médias présentée hier à Kinshasa par le groupe Target. Des précisions dans ce journal. L'insécurité engendrée par les rébellions qui partent de l'est de la RDC impacte négativement le processus de développement économique. La question a fait l'objet d'une conférence animée hier à Kisangani par le ministre provincial de l'économie de la Tchopo. Comme thérapie, Senold Tandia propose l'instauration d'un état développeur. Et puis, journée mondiale des réfugiés, c'est aujourd'hui 20 juin. À cette occasion, le ACR révèle que plus d'un million de Congolais sont actuellement réfugiés dans divers pays à cause de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Pour en parler, nous recevons Pierre Atchom, représentant par intérim du ACR en RDC. À tous et à toutes, bonjour. L'Internet et les chaînes câblées gagnent du terrain selon les données d'audience des médias présentées hier jeudi à Kinshasa par le groupe Target. Cette étude révèle qu'en RDC, au moins 55% des personnes privilégient l'Internet, tandis que la radio atteint une audience de 44% contre seulement 1% pour la presse écrite. Le directeur général de Target SRL, Serge Mumbu, explique cette tendance par la migration progressive du public vers les contenus digitaux. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon cette étude, réalisée du 1er au 7 mars dernier à travers les grandes villes du pays, l'Internet connaît une percée grâce à son adoption par les jeunes et les personnes à revenus moyens ou élevés, notamment à Kinshasa, dans les Grands Katanga, les Grands Kivu et Congo Central. Le directeur général du groupe Target signale que la radio, quant à elle, conserve son ancrage en raison de la couverture électrique limitée dans certaines régions du pays, à savoir les Grands Kassai, les Grands Bandundu et les Grands Équateur. Serge Mambou.
Problème d'électricité au niveau de certaines régions. C'est dans ces régions-là où la radio résiste encore. C'est que les gens utilisent les postes radio pour l'instant pour pouvoir accéder. Mais vous voyez que Kinshasa, par exemple, les scores sont insignifiants. Donc la radio à Kinshasa, c'est à peine 6%. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez communiquer, vous ne pouvez pas vous focaliser seulement sur un seul média.
Pour sa part, les responsables de l'analyse des données au sein des Target prévient que d'ici 2028, l'audience de la télévision en clair et de la presse écrite sera quasiment anéanti. Malgré ces écarts de score, poursuit cette enquête, les téléphones portables demeurent l'outil principal utilisé pour accéder à l'ensemble des catégories des médias en RDC avec un taux d'utilisation culminant à 97% pour Internet, suivi de 60% pour la radio.
L'insécurité engendrée par les rébellions qui partent de l'est de la RDC impacte négativement le processus de développement économique. Les pillages, la destruction des infrastructures et la fuite des capitaux sont également les corollaires de cette insécurité. Face à ce tableau sombre, quelle thérapie faut-il appliquer? Ces préoccupations ont fait l'objet d'une conférence animée jeudi à Kisangani par le ministre provincial de l'économie de la Tchopo au sein de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Compte rendu de Jacques Moukonkolé.
Dans une salle archi-comble, le ministre provincial de l'économie a démontré l'impact négatif de l'insécurité sur le développement, allusion faite aux différents pillages et rébellions connus en RDC, lesquels ont détruit des infrastructures socio-économiques de base et entraîné la fuite des capitaux. Par rapport à cet état des choses, Senold Tandia propose comme thérapie l'instauration d'un état développeur.
Il est impérieux qu'aujourd'hui nous puissions certainement essayer un peu de dissocier la gestion économique du pays avec la gestion politique pour que les actions politiques ne puissent pas à chaque fois interférer des actions d'ordre économique de telle sorte que la gestion économique du pays soit inscrite dans les longs termes.
L'organisation régulière des conférences tous les mercredis dans cet établissement répond à un impératif académique, celui de concilier les enseignements théoriques avec la pratique selon le directeur général de l'IEC, le professeur Jean-Claude Essouka Alfani.
Ce sont des thématiques qui sont liées à leur profession, des thématiques sur les des thématiques sur le développement, des thématiques sur l'intelligence artificielle. Les étudiants ont besoin de ça. Certainement, ils puisent beaucoup d'informations par rapport à ça.
Le stage professionnel et les projets tutorés s'inscrivent également dans la même logique, souligne-t-il. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, la coordination des personnes déplacées hors site du territoire de Mambasa sensibilise depuis hier des centaines de déplacés qui habitent dans des familles d'accueil à Nyanya, sensibilisation qui porte sur leur implication dans la sécurité de leurs entités. Selon le coordonnateur Justin Apekapo, l'objectif est de renforcer la collaboration avec les services de sécurité en dénonçant les ennemis de la paix dans leur milieu de refuge. Cette démarche est due au regain de criminalité dans les différents quartiers où sont installé s'est déplacé. Justin Apekapo, rejoint par Martial Kizabiamongo.
Vous savez que le contexte actuel de l'insécurité causée par les ennemis de la paix, nous avons cette coutumance de les sensibiliser pour qu'eux-mêmes puissent dénicher les ennemis de la paix. Vous savez que la situation sécuritaire, le contexte de l'insécurité ne prend pas seulement les villages de provenance et déplacés, mais aussi ils peuvent aussi contribuer au rétablissement de la paix du village là où ils sont en train de vivre actuellement. C'est pas pour dénicher certains mouvements de la criminalité de la ville.
Sachez qu'après Nyanya, la même activité sera organisée à Badengaido, Mambasa Centre et Biakato, toujours dans le territoire de Mambasa en Ituri. Du côté du Nord Kivu, un déplacement massif de la population de Katéku est observé depuis 2 jours dans le groupement Ikobo, dans le territoire de Walikale. C'est la conséquence des affrontements qui ont opposé mercredi le groupe Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement, CMC et FAPC, du général autoproclamé Jonas Bigabo, aux rebelles du M23 AFC. Récit des faits avec Benjamin Mudumbi.
Ces combats qui ont éclaté tôt le mercredi à Katéku, village situé à cheval entre les territoires de Lubero et Walikale, ont provoqué un déplacement massif de population, indiquent nos sources dans la région. Les habitants de Katéku et des villages environnants, notamment ceux de Buleusa et Bukumbirwa, se sont dirigés vers Rusamambu où ils ont pris refuge. Le même source affirme que ces derniers ont tout abandonné dans leurs habitations. Le bilan de ces affrontements n'a pas été révélé. Toutefois, nos sources signalent que de morts et des blessés du côté des civils sont précisés. Le nombre, ce qui a provoqué une panique au sein de la population de Katéku. Nos sources ajoutent qu'un calme précaire est revenu dans la région après ces combats qui ont duré plusieurs heures dans la zone.
Restons au Nord Kivu. Environ 100 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole dans la zone de santé de Masisi. Cette campagne, appuyée par l'ONG Médecins Sans Frontières, s'est déroulée du 5 au 10 juin en cours et a ciblé les enfants âgés de 6 à 59 mois. La coordonnatrice de Médecins Sans Frontières, MSF à Masisi, indique que la réponse contre les épidémies se heurte à quelques défis inhérents à l'instabilité sécuritaire dans la région. Elle invite les parties au conflit à faciliter l'accès à toutes les entités de la zone de santé de Masisi. Ici, sécuriser les équipes médicales et tous les intrants nécessaires. Voici un extrait du rapport de Médecins Sans Frontières dans ses propos de Elena Kardelak, coordonnatrice de MSF dans le Masisi.
Les premiers cas de rougeole ont été rapportés en début d'année dans la zone de santé de Masisi. C'est depuis le début de l'année que la zone a rapporté plus de 1000 cas et 4 décès, mais on estime que ces chiffres sont probablement sous-estimés. Aussi, au cours de la même période, Médecins Sans Frontières a appuyé aussi le ministère de la Santé pour traiter plus de 1000 cas de rougeole, 1000 patients, dont 238 ont été hospitalisés à l'hôpital général de référence de Masisi, c'est-à-dire des patients qui avaient la rougeole avec des complications. Médecins Sans Frontières a mené une campagne de vaccination à Rutshuru, spécifiquement à Bambo, où cette campagne a ciblé plus de 26 000 enfants, mais qui a été suspendue partiellement à cause de l'insécurité. On a eu pas mal de défis. Lorsque le M23 a pris le contrôle de Goma en janvier, l'aéroport a été fermé. Par conséquent, la principale voie d'acheminement des vaccins vers l'est du pays a été fermée. Donc, les stocks de vaccins ainsi que d'autres intrants ont été épuisés. Les affrontements ont également compliqué l'accès à certaines zones. Et nous, on fait un appel aussi à toutes les parties au conflit pour faciliter l'accès, sécuriser des équipes médicales, des vaccins et d'autres matériels essentiels pour la population.
Dans l'actualité aussi, le réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination projette d'étendre ses activités sur l'ensemble du territoire national afin de soutenir le programme élargi de vaccination PEV. L'annonce a été faite mercredi par le président du réseau des parlementaires congolais, Jean-Marc Mabindi. C'était lors d'une interview accordée à Radio Capi. Il signale qu'une équipe sera dépêchée dans les tout prochains jours dans 9 provinces du pays pour redynamiser les comités provinciaux du REPACAV et impliquer davantage davantage les élus provinciaux dans le plaidoyer en faveur de la vaccination des enfants. Jean-Marc Mabindi Koloboro au micro de Kelvin Baini.
Le réseau des parlementaires en appui à la vaccination, REPACAV en sigle, c'est un outil de plaidoyer politique en faveur de programmes élargis de vaccination. Ce réseau regroupe des députés et sénateurs en activité. L'adhésion est libre. Nous avons principalement comme mission de faire en sorte que les députés nationaux, le gouvernement de la République et les exécutifs provinciaux puissent s'approprier des activités de vaccination et également puissent assurer un financement durable à faveur des activités de vaccination sur toute l'étendue de notre pays. C'est pour cette raison que le réseau a comme objectif également de s'étendre sur l'ensemble du pays, donc dans les 26 provinces.
Signalons que la vaccination reste un moyen essentiel de protection des enfants contre des maladies dangereuses telles que la poliomyélite, la rougeole ou la tuberculose. En RDC, des efforts restent à faire pour atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment dans les zones rurales et reculées, indique la même source. Autre nouvelle, la MONUSCO a remis hier jeudi 32 motos au chef des 30 quartiers de la ville de Beni ainsi qu'à deux localités voisines, Ngite et Mavivi. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet de gouvernance sécuritaire visant à pallier les problèmes de mobilité de ces cadres de base et à renforcer la collaboration entre les autorités locales et la population. Marc Marofimbo, reportage.
Cette initiative découle du projet de sensibilisation autour de l'importance des comités locaux de sécurité mis en œuvre par la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni. Une action saluée par les bénéficiaires qui y voient un appui concret à l'amélioration de la sécurité dans la ville. Norbert Kitobi, chef de quartier Mapakanga, exprime sa satisfaction.
Nous tenons à féliciter nos partenaires de la MONUSCO pour la réception de ces matériels qui nous serviront dans les besoins ressentis de la sécurité. Nous nous engageons de recevoir ces engins pour le bien de toute la population de la ville de Beni.
Le maire de Beni, Jacob Nyofondo Tekodal, a pour sa part insisté sur l'usage responsable de ces moyens roulants.
En leur dotant de motos, vous leur permettez de se déplacer plus rapidement et efficacement, mais aussi de mieux surveiller leurs quartiers respectifs et de réagir rapidement en cas d'alerte sécuritaire. Vous avez l'obligation d'en faire bon usage afin de continuer à jouer pleinement votre rôle.
Il convient de rappeler que cette dotation s'ajoute à celle des jeeps déjà octroyée par la MONUSCO aux quatre communes et commissariats de police de Beni, toujours dans le but de renforcer la sécurité et la protection des civils. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Clôture hier à Kinshasa de la formation des journalistes congolais organisée depuis mercredi par la MONUSCO et l'UNESCO. Formation sur la cohésion sociale et la lutte contre la désinformation à l'ère du numérique. Au terme de cette assise, aussi bien les organisateurs que les bénéficiaires se sont engagés à combattre toute expression favorisant la division et la haine en RDC. Les journalistes surtout ayant été formés à détecter les éléments de ces expressions de rupture sociale promettent de désormais tout faire pour les bannir de leur production quotidienne. Les journalistes ayant participé à cette formation étaient une cinquantaine, dont une bonne majorité de Kinshasa et ceux des Kivu, de l'Équateur, du Sud et du Centre de la RDC. À Kinshasa, le génie militaire poursuit les travaux de construction des canaux de drainage des eaux de la pluie sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema. Ces voies d'évacuation des eaux partent du camp Tchatchi vers le fleuve Congo en passant par la partie qui enregistre souvent les glissements de terre après des fortes pluies. Reportage de Élise Kavira.
La pluie torrentielle du vendredi 13 juin dernier a rendu l'avenue du tourisme impraticable sur une longue distance, soit environ 100 mètres. Cette route était presque coupée en deux. Les maisons construites en tôle le long de cette artère n'ont pas non plus résisté. Madame Mwamvita Elodie, qui est parmi ceux qui ont perdu leur logis, explique.
Il y a un caniveau dans le camp Tchatchi, celui sur lequel le génie militaire travaille. Ce caniveau aide à drainer beaucoup d'eau. Mais nous sommes étonnés de voir que ceux qui font ces travaux ont enlevé le mur et le sac que la population avait mis en place. C'est ce qui a conduit à cette situation.
Pour sa part, le lieutenant Godard Ditomene, superviseur des travaux, parle de ce qui se fait sur le terrain.
Le désordre qui s'effectue sur l'avenir du tourisme vient de l'intérieur du temps. Raison pour laquelle nous sommes en train de construire les ouvrages de drainage, recueillir les eaux déjà en amont, afin de les drainer. Les collecteurs ici nous mènent déjà vers notre deuxième exutoire. Dans l'ensemble, nous construisons un réseau de 1,5 km. Selon notre planification, ça va nous prendre tout au plus 4 mois.
Contacté à ce sujet, Jules Kaboula, de la cellule de communication de l'Agence congolaise des grands travaux, rassure que le mur de soutènement prévu dans le plan de l'ACGT sera érigé comme prévu, parallèlement aux travaux en cours.
Actualité internationale.
Deux hommes ont été condamnés hier à 30 ans de prison pour avoir facilité l'attentat du complexe hôtelier du site D2 à Nairobi en 2019. Nous sommes bien au Kenya. 21 personnes avaient été tuées dans cette attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Le tribunal a établi que les deux accusés, tous des Kenyans, avaient envoyé de l'argent aux terroristes et fourni des faux papiers d'identité. L'enquête antiterroriste, qui a duré 6 ans, a permis de remonter toute la chaîne allant des assaillants aux financiers.
L'invité.
Journée mondiale des réfugiés, c'est aujourd'hui 20 juin. À cette occasion, le représentant par intérim du ACR en RDC adresse un message de solidarité au regard des conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les personnes réfugiées à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC. Pierre Achom, invité de ce journal, répond aux questions de Sifa Maguru.
Monsieur le représentant Pierre Achom, bonjour.
Bonjour madame.
Bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci beaucoup.
Le 20 juin de chaque année marque la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés. Quel état des lieux faites-vous de la situation des personnes réfugiées en RDC et de façon particulière à l'Est?
La Journée mondiale des réfugiés qui va se célébrer le 20 juin est la 25e journée mondiale célébrée dans le monde. Le thème de cette journée est la solidarité envers les personnes déplacées. Assez de force, en particulier les réfugiés. Je dois dire que de plus en plus, on constate des déplacements de force, des populations qui bougent au regard du conflit au Soudan, à l'est de la RDC et dans un certain nombre de pays. Donc, ça fait en sorte que ces déplacements-là apportent un poids sur le dos de l'État qui est généralement soutenu par le HCR.
Quels sont les chiffres que la population peut retenir actuellement?
La RDC produit des réfugiés, mais la RDC aussi reçoit des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons environ 1 100 000 réfugiés congolais qui se retrouvent dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, et un petit nombre en Centrafrique et ailleurs, Malawi, Zambie. Mais aussi, la RDC reçoit également les réfugiés. Et donc, nous avons environ 518 000 réfugiés ici, et demandeurs d'asile, ici au niveau de la RDC, constitués notamment des réfugiés rwandais, des réfugiés centrafricains, des réfugiés sud-soudanais et également des réfugiés burundais qui sont les plus nombreux.
Monsieur le représentant, comme vous le savez, la crise sécuritaire, notamment la guerre qui sévit dans les deux Kivu, dans l'Ituri, a créé des nouveaux déplacés internes et des réfugiés. Quelle réponse apportez-vous à cette crise sur le plan de la gestion des réfugiés et déplacés?
La plupart ne sont pas dans les camps de réfugiés, parce qu'à l'Est, il n'y a pas de camp de réfugiés. Donc, la plupart sont dans les localités périphériques, et notamment à Goma ou à Bukavu. Donc, nous avons des équipes sur le terrain qui travaillent. En ce qui concerne les déplacés internes, bon, on fonctionne sur la base de ce que nous appelons techniquement les clusters, sous la coordination du coordinateur humanitaire. Et le HCR en particulier a 3 clusters. Un cluster qui est lié à la protection, c'est-à-dire au monitoring pour s'assurer que les droits des déplacés sont respectés, mais aussi un cluster qui s'occupe des abris, donc, et un dernier cluster qui s'occupe de la gestion des sites. Donc, nous travaillons bien entendu avec pour apporter un soutien des autorités. Alors, les autres agences ont également leur cluster en ce qui concerne les déplacés internes. Mais pour les réfugiés, nous couvrons pratiquement tout, bien sûr, en soutien à l'État congolais.
Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Parce que nous savons que la question, par exemple, de la sécurité des personnes réfugiées qui se trouvent dans la partie Est et les préoccupe beaucoup, mais aussi l'aspect survie, la résilience. Comment vous faites?
Comme toute institution, dans le contexte actuel de la morosité des financements, et c'est un peu difficile. Nous faisons le peu que nous pouvons, nous apportons également un appui en termes de logement, et nous nous assurons également que les réfugiés puissent avoir des documents qui prouvent leur statut de réfugié, et ces documents sont délivrés par l'État à travers la Commission nationale pour les réfugiés. Mais il faut comprendre que la situation actuelle, c'est une situation qui impacte le HR comme toutes les agences. Au moment où je vous parle, le gel du financement américain plus la baisse de la donation des bailleurs de fonds fait en sorte que le HR au niveau de la RDC a été véritablement impacté. En termes du personnel, le HR va se retrouver en train de réduire la moitié de son personnel au cours de cette année. Nous allons fermer 4 bureaux. Le bureau de Baraka, de Chikapa, le bureau de Yakuma et le bureau d'Arou qui va être redéployé au niveau de Bounia. Donc vous comprenez que dans ces conditions, il est vraiment difficile pour nous, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer également à mobiliser les ressources, à soutenir l'État congolais pour pouvoir continuer à apporter l'assistance et la protection aux réfugiés. Nous restons dans le pays, nous serons là, nous allons travailler aux côtés de l'État.
Monsieur Pierre Atchoum, merci beaucoup.
Je vous remercie, Madame Sifa.
Le représentant par intérim du ACR en RDC répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.